RFI 8h30 à Niamey, 9h30 à Paris. Et tout de suite, c'est le journal d'Edouard Dupénoat, l'actualité africaine. Edouard, où le Niger et le Nigeria affichent leur amitié retrouvée.
Le ministre nigérian des Affaires étrangères, reçu par son homologue et par le premier ministre de transition, Lamine Zeyn, première visite d'un membre du gouvernement depuis le coup d'État en 2023. Entre l'Algérie et la France, de multiples échanges de nouveau brutalement stoppés, qu'il s'agisse de la politique de mémoire ou des partenariats économiques, la crise diplomatique fait sentir très largement ses secousses. La France, qui pourrait permettre aux demandeurs de visa marocains de commencer leur démarche à La Hayoune, au Sahara occidental. Il ne s'agirait pas d'un consulat, sujet bien trop explosif, mais des locaux d'une entreprise privée sous-traitante. Et puis quelques notes de Conakry depuis Abidjan. Nous sommes au FEMUA à la fin de ce journal. La Guinée est l'invité d'honneur.
Le Niger et le Nigeria marquent donc un franc réchauffement de leurs relations.
Le chef de la diplomatie nigériane, en effet, a été reçu hier par son homologue et par le premier ministre de transition à Niamey. Il s'agit de la première visite au niveau gouvernemental d'un officiel du Nigeria chez son voisin du Nord depuis le coup d'État en 2023. Les relations s'étaient alors considérablement dégradées. Abuja était le fer de lance de l'option militaire que la CDAO avait un temps envisagée. Il n'en est plus rien. Magali Lagrange, le texte qui boucle la visite est un étalage de bons sentiments.
Relations chaleureuses, amicales, de fraternité et d'amitié, selon le communiqué commun, c'est dans la ferveur et l'enthousiasme que le ministre nigérian des Affaires étrangères a été accueilli à Niamey. Un ton qui contraste avec la méfiance ouvertement affichée par les autorités nigériennes envers le grand voisin du Sud depuis le coup d'État. Contact renoué, les deux pays qui partagent 1500 km de frontières listent désormais les nombreux domaines dans lesquels ils veulent resserrer leurs liens. Économie et sécurité notamment, même si le Niger a quitter la CDAO et la force multinationale mixte active dans la région du lac Tchad. Redynamisation de la commission mixte nigéro-nigériane de coopération, questions énergétiques, construction du gazoduc transsaharien, Niamey et Abuja veulent aussi unir leurs forces pour combattre le terrorisme. Les deux ministres se donnent rendez-vous au Nigeria pour une prochaine visite dont la date n'est pas encore fixée. Le chef de la diplomatie nigériane n'a en revanche pas vu le général Abdourahmane Tchiani à qui il apportait un message du président Bola Tinubu, message qu'il a finalement transmis au premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeyn.
Magali Lagrange, le ministre des Affaires étrangères d'Afrique du Sud. Cette fois, Ronald Lamola vient de conclure une visite de 2 jours. Il était pour sa part en Russie. Il a pu s'y entretenir avec son homologue Sergueï Lavrov. Il souligne les liens diplomatiques durables qui existent entre les deux pays. La guerre en Ukraine était bien sûr au cœur de leurs échanges. Pretoria réaffirme la nécessité de voir une cessation immédiate des hostilités pour ouvrir la voie à une solution négociée. L'Afrique du Sud qui continue aussi d'afficher sa volonté de dialoguer tant avec Moscou qu'avec Kiev, puisque le pays doit accueillir la semaine prochaine le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Diplomatie profondément en peine, cette fois de nouveau entre l'Algérie et la France. L'Algérie qui dit prendre acte du renvoi de 12 de ses agents diplomatiques et du rappel pour consultation de l'ambassadeur de France. Décision que nous regrettons, dit Sofiane Chaïb, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. Il y a donc ces rappels de diplomates, ces imprécations médiatiques, mais pas uniquement. Alger et Paris étaient en train de reprendre langue sur plusieurs autres sujets, mémoriels, économiques. Pierre Firsion, panne sèche générale.
Tout est à nouveau à l'arrêt entre les deux pays. La visite à Alger du ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, pour tenter de relancer la coopération judiciaire, n'est désormais plus à l'ordre du jour. Également stoppées les initiatives récemment lancées par les acteurs économiques, Rodolphe Saadé, le patron de l'armateur CMA-CGM, a, selon le site Africa Intelligence, renoncer à se rendre mardi à Alger. En sens inverse, le CREA, un syndicat patronal algérien, a préféré annuler sa venue à Paris début mai. En mai également, la commission mixte d'historiens était censée reprendre ses travaux. La partie française de la commission avait, selon nos informations, envoyé une invitation officielle à son homologue algérienne, avec pour objectif la tenue d'une réunion à Aix-en-Provence pour parler archives et restitution de biens historiques. Mais l'initiative est désormais à l'arrêt, les historiens algériens n'ayant pas répondu à cette invitation. Sur tous les fronts, le dialogue est donc rompu. Pourra-t-il reprendre à court ou moyen terme? C'est le souhait formulé par Jean-Noël Barrot, une reprise des discussions qui nécessitera certainement du temps, tant la poussée de fièvre aura été soudaine et violent.
Et parmi les dossiers qui grippent le plus cette relation bilatérale, celui de Boualem Sansa, l'écrivain condamné à 5 ans de prison en Algérie. Le Premier ministre français recevait hier plusieurs membres de son comité de soutien. François Bayrou parle d'une situation insupportable en disant espérer que Boualem Sansa puisse retrouver sa liberté et son intégrité. La France qui, à l'inverse, continue de faire montre des meilleurs sentiments à l'endroit du Maroc. L'ambassade de France annonce que le service de recueil des demandes de visa va être étendu bientôt à La Hayoune, principale ville du Sahara occidental, une région sur laquelle Rabat revendique sa souveraineté. Paris s'est aligné sur cette position au mois de juillet dernier. Il ne s'agirait pas d'un consulat en prise diplomatique qui serait hautement polémique, mais plutôt des services d'une entreprise privée, TLS Contact. Explication François Humfer-Kataji.
Avec l'ouverture annoncée de cette antenne de l'entreprise privée TLS, qui assure la gestion de services consulaires pour le compte de l'État français, la France pourrait avoir trouvé une parade juridique tout en posant un acte diplomatique fort. Au Sahara occidental, la question de l'ouverture d'un consulat est délicate en raison de l'enjeu politique, diplomatique et juridique autour de ce territoire disputé et considéré comme non autonome par l'ONU, mais largement contrôlé par le Maroc. Depuis l'été dernier, la position de la France a évolué sur ce dossier. Paris se tient désormais pleinement aux côtés de Rabat et affirme que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Ce centre TLS ne constitue pas en soi une emprise diplomatique. Au mois de juillet dernier, la ministre de la Culture française Rachida Dati avait effectué une série de visites au Sahara occidental et avait annoncé l'ouverture d'une alliance française dans cette même ville de La Hayoune. Là aussi, il s'agit d'un centre culturel et non pas d'une représentation diplomatique directe. L'ambassadeur de France précise que cette extension de TLS pourrait être opérationnelle dès le mois de mai prochain. François Humfer-Kataji, Casablanca, RFI.
À Casablanca, il est 8h37, même heure à Tunis. On en vient à cette nouvelle alerte sur l'état des libertés publiques en Tunisie. Elle émane cette fois de l'organisation Human Rights Watch qui publie un rapport centré sur les détentions arbitraires. Des citoyens arrêtés, détenus pour des motifs parfois purement politiques et qu'aucune preuve ne vient étayer. L'ONG en parle comme d'un moyen de faire taire toute personne perçue comme critique du gouvernement. Le rapport passe au crible le cas particulier de 22 personnes. Mais Ahmed Benchemsi, chercheur pour Human Rights Watch, rappelle que le nombre de détenus politiques est au moins 2 fois plus élevé.
Aujourd'hui, plus de 50 personnes sont détenues pour des motifs politiques en Tunisie. C'est-à-dire qu'il s'agit d'opposants au président Saïd qu'ils jettent en prison pour des motifs qui sont absolument pas substantiés. Des accusations d'atteinte à la sécurité. Ce sont des procès politiques et c'est ça que nous documentons principalement. C'est que depuis sa prise de pouvoir, en 2021, quand il a fait ce coup d'état institutionnel contre le régime duquel il était président, nous avons constaté que la répression de toute dissidence, en fait, s'est extrêmement intensifiée et nous documentons le cas de 22 personnes en particulier qui sont des opposants, qui sont détenus arbitrairement et qui font l'objet de poursuites non justifiées. Et notamment dans le cadre du procès dit du complot. Alors c'est un procès qui a fait couler beaucoup d'encre en Tunisie parce que les autorités et le procureur y accusent une quarantaine de personnes d'être toutes de mèche pour faire tomber le président Saïd, voire attenter à sa vie. Alors, les preuves de ça, on demande encore à voir. Mais par contre, ce qu'on sait déjà, c'est que le procès a été émaillé de violations des normes d'un procès équitable.
Ahmed Benchemsi pour Human Rights Watch, propos recueillis par Ouda Ibrahim. Les autorités maliennes de transition serrent encore un peu plus la vis autour de la société Barrick Gold, l'entreprise canadienne, symbole du bras de fer que Bamako a engagé avec plusieurs groupes miniers qui exploite son sous-sol. Confrontation qui dure depuis plusieurs mois. Depuis l'adoption d'un nouveau code minier, le Mali exige de la part de Barrick Gold le paiement de plusieurs dizaines de millions de dollars, considérés comme des arriérés d'impôts. Et désormais donc, Agnieszka Kumor, les bureaux bamakois du groupe ont été fermés.
Ce sont les services fiscaux maliens qui ont fermé les bureaux de Barrick Gold à Bamako, officiellement pour non-paiement d'impôts. En 2024, le pouvoir militaire malien a adopté un nouveau code minier, avec pour objectif d'augmenter les redevances. Selon Barrick Gold, 85 millions de dollars auraient déjà été versés à l'État malien. Le conflit avec l'industriel canadien dure depuis des mois. Au cœur de la dispute, Lulo Gunkoto, l'une des plus importantes mines d'or au monde, détenue à 80% par le groupe canadien et à 20% par l'État malien. Mais les activités du site ont été suspendues après la saisie en janvier dernier de 3 tonnes d'or par les autorités du pays. 4 employés maliens de la compagnie sont en détention et des mandats d'arrêt ont été émis contre ses dirigeants pour blanchiment de capitaux.
Agnieszka Kumor du service économie de RFI. Entre Abidjan et Conakry, ce journal maintenant au FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, 17e édition de ces rencontres qui sont bien plus que des concerts. Chaque année, le festival s'emploie à développer un thème en particulier, en l'occurrence pour 2025, le civisme et la sécurité routière. Autre tradition du FEMUA, le fait d'inviter particulièrement un pays, c'est donc la Guinée cette année qui a eu droit à sa soirée spéciale à l'Institut français d'Abidjan. Guillaume Thibault est notre envoyé spécial.
Puissance et volupté. Lorsque la Guinée présente ses plus beaux atouts, la danse, le conte et la musique rayonnent. Et la voix de ses acteurs, comme celle de Souleymane Bangoura, alias Soul Bang, prix découvert RFI en 2016, résonne.
C'est une immense fierté, ça nous plonge encore dans la joie. Ça nous fait comprendre à nouveau que la musique est toujours un vecteur d'union.
Ancrée dans cette soirée, la communauté des griots, avec notamment le maître de la kora, Bassissoko, ému de représenter son pays, la Guinée, au FEMUA.
Ça me fait plaisir vraiment d'être là. Magic System qui invite la Guinée qui parraine le festival. La musique d'abord mandingue, ça fait lien entre deux peuples.
Cette belle soirée a aussi mis en avant les femmes, les danseuses et la griotte Namamba Kanté, qui sait que sa musique a un rôle diplomatique, qu'elle rôtisse les liens séculaires entre la Guinée et la Côte d'Ivoire.
Il y a eu des tensions entre ces deux pays. Donc aujourd'hui, la musique renforce vraiment ce tissu, ces liens diplomatiques entre ces deux pays. Donc la musique n'a pas de frontières.
Guillaume Thibault, Abidjan, RFI.
Et Guillaume Thibault, que l'on va retrouver dans 10 minutes pour notre choix musical, qui nous emmène aujourd'hui au cœur du FEMUA. Restez avec nous. Merci Edouard, c'était le journal sur RFI.